Mais d'habitude, on le fait derrière la chaire. Mais là, je me suis dit qu'aujourd'hui, je voulais de la proximité. Alors, je voudrais dire un grand bonjour, donc, à, bien sûr, à Mathilde, évidemment. Mais j'ai eu l'occasion de le lui dire. Mais aussi à sa famille et aussi à ses amis qui sont venus nombreux. Mais j'aimerais aussi vous accueillir toutes et tous dans cette église, que vous soyez habitués ou un petit peu moins habitués. Sentez-vous vraiment accueillis dans cette salle. Alors ce matin, nous avons un baptistère qui est derrière nous. Ça s'appelle un baptistère. C'est un outil qui sert à baptiser des personnes. Alors nous baptisons les personnes lorsqu'ils sont en âge de comprendre pourquoi passer par les eaux du baptême. Nous avons effectivement, nous ne baptisons pas les enfants. Et donc Mathilde, effectivement, est en âge de demander le baptême. Et elle l'a demandé. Le baptême, vous allez voir tout à l'heure, l'eau ne va pas se mettre à bouillir. Il ne va pas y avoir de fumée qui va sortir. Il ne va pas y avoir de manifestation physique, si ce n'est que le corps plongé ressortira mouillé. Le baptême qui va avoir lieu tout à l'heure, c'est un symbole. C'est un symbole qui illustre, on en a parlé déjà beaucoup, Mamie, notre pasteur, en a parlé en lisant ce petit passage dans la Bible ce matin. Il a parlé de sacrifice de Jésus. Il a parlé de la mort de Jésus. Il a dit aussi que Jésus était vivant et que nous étions libérés. Alors, y a-t-il un rapport entre ce que nous avons entendu ce matin et le baptême ? Oui, il y a un rapport. Il est même direct, puisque le baptême consiste à plonger une personne dans l'eau et de la ressortir. Le fait de plonger la personne est un symbole de la mort de Jésus. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la personne elle-même, sur Mathilde. Et bien sûr, le fait que la personne soit allongée symbolise l'ensevelissement de Jésus lorsqu'il a été mis dans le tombeau. Et nous le croyons, Jésus est revenu à la vie, et c'est ce qui est symbolisé par la sortie de l'eau du baptême. Alors, la personne qui se fait baptiser n'est pas là pour rappeler simplement ce que Jésus a fait, elle est là aussi pour témoigner que Jésus fait partie intégrante de sa vie. Mathilde appartient à Jésus. C'est ce que Mathilde voudrait vous dire ce matin. Alors, je n'ai pas peur d'avoir grillé son témoignage, mais je sais que Mathilde, ayant demandé à passer par les eaux du baptême, elle s'apparente, elle s'associe, parce que finalement Mathilde est morte dans ses péchés avec Jésus et ressuscitée avec lui. Et c'est le message qu'elle va nous transmettre tout à l'heure. Alors, il y a quelques mois, Mathilde m'a demandé de faire ce petit discours et puis aussi de la baptiser. Je ne vous cache pas que j'en étais très très honoré. Et depuis ces quelques mois, j'ai eu à cœur de lui offrir quelque chose. Voilà, donc ce matin, je voudrais lui offrir, alors ça ne va pas coûter cher, mais je voudrais lui offrir un passage de la Bible. Un peu comme une mémoire, comme un leitmotiv. Pour la suite de sa vie chrétienne. Et le passage que j'ai choisi, c'est un passage que je vais partager avec vous et qui est Romains 8. Alors c'est très connu, Romains 8. Romains 8, c'est dans la Bible, c'est un chapitre de la Bible et ce livre a été écrit par un certain Paul. Et Paul, il était apôtre, il écrivait des choses, mais il était, en plus d'être apôtre, il était théologien. Alors vous allez vous en rendre compte parce que Romains 8, ce n'est pas simple et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu qu'on le parcours ensemble, tous ensemble, et je m'arrêterai régulièrement pour faire de très petits commentaires sur ce passage que nous allons parcourir ensemble. Donc, parcourons ensemble le Romains 8. Donc, le chapitre démarre par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et je m'arrête déjà là. Alors, bon, il y a 39 versets. Hein, si vous dites ici, il s'arrête aux 39 versets, demain matin, on y est encore. Je vous rassure, je vais passer un petit peu plus rapidement. Mais ce verset 1, ici, cette phrase, mérite que nous arrêtions. Parce qu'effectivement, Nous avons déjà entendu par Mamie que le fait d'être transformé par Jésus, le fait de le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix et que vous connaissez tous, lorsque la personne se l'est approprié pour elle-même, eh bien cette personne appartient à Jésus et il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. Mais vous allez me dire, mais pourquoi une condamnation ? Eh bien tout simplement parce que, et vous le savez, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Et au regard de Dieu, nous ne pouvons pas être associés à Dieu. On va y revenir un petit peu plus tard dans le chapitre. Mais en tout cas, lorsqu'on est en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et j'ai envie de dire, Mathilde, pour toi, il n'y a plus aucune condamnation, puisque tu es en lui. Et pour vous toutes et tous qui êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Le casier judiciaire est vierge. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Parce que là, on nous parle d'une impossibilité, car chose impossible à la loi, et la réponse arrive tout de suite, Dieu. Alors, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est formidable, n'est-ce pas ? La justice de la loi est accomplie. La loi, chers amis, elle ne peut que nous accuser. On le sait très bien. On n'a jamais vu un radar automatique au bord d'une route vous féliciter et vous envoyer et vous rendre des points parce que vous étiez passé à 48 au lieu de 50. Non, la loi est là pour nous condamner. Mais la solution à cette condamnation a été trouvée. Et cette réponse, c'est Dieu. On va avancer encore un petit peu. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà quelque chose aussi de formidable. C'est que lorsqu'on est en Jésus-Christ, c'est la vie et la paix nous sont procurées. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà une petite phrase très simple, pas longue. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais cette simplicité devrait nous alerter. Et il y en aura d'autres des phrases simples dans ce passage. Cette simplicité devrait nous alerter. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Il y a incompatibilité totale entre... Alors, vivre selon la chair, c'est s'adonner à n'importe quoi et s'y complaire. C'est ça, vivre selon la chair. C'est rechercher à tout prix à vivre selon la chair. Eh bien, cela, c'est incompatible avec vivre selon l'esprit et de plaire à Dieu. Merci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un, voilà encore une petite phrase simple, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, c'est une phrase très grave. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais la réciproque, si quelqu'un vit selon l'Esprit, il appartient à Christ. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà encore aussi un passage. Celui qui a eu la puissance de ressusciter Jésus a la puissance de nous ressusciter. Alors, cette notion de résurrection est une notion très spéciale, parce que nous sommes, bien sûr, on n'a jamais vu quelqu'un revenir à la vie, nous-mêmes. Je ne sais pas vous, mais moi non. Humainement, c'est un concept complètement, mais totalement décalé par rapport à... C'est même anti, c'est non, anti-naturel, c'est pas concevable, on ne le comprend pas, on ne voit pas comment c'est possible, c'est pas rationnel, voilà. Non, clairement. Mais si on pense un instant que Jésus est ressuscité, et que celui qui est l'auteur de cette résurrection était capable de le faire, alors il n'y a pas de raison de douter que celui qui est l'auteur d'une telle résurrection ne soit pas encore capable aujourd'hui de ressusciter. Alors voilà, déjà on en est à deux notions incroyables depuis qu'on a commencé à parcourir ce passage. La première qu'on a vue, c'était qu'il nous a libérés de la mort et du péché. Ça, c'est déjà quelque chose de formidable et qu'il n'y a pas de condamnation. La deuxième chose incroyable et qu'on a du mal à saisir, c'est qu'il est capable de nous rendre la vie. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Et nous y croyons. Mais quand on réfléchit, l'être humain est brouillé avec Dieu, n'est-ce pas ? Et peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui ont lutté toute leur vie avec Dieu, ou qui peut-être luttent encore contre Dieu. Eh bien, cette notion de résurrection devrait nous toucher. Parce que on peut se poser la question, mais pourquoi un Dieu si grand et imaginer un tel plan de rachat pour les hommes, un plan de salut, on dit nous le salut pour, dans la notion d'être sauvé, pourquoi Dieu a prévu ça? Je veux dire, on était brouillé avec lui, on s'est fâché, on ne se parlait plus, et maintenant, voilà que il m'annonce que je peux être libéré, et encore plus fort, il m'annonce que je peux être vivant pour toujours. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Encore une phrase très rapide, très simple, et encore comme je vous disais, cette simplicité devrait nous alerter. Si la phrase est si simple, c'est pour qu'on la comprenne, être certain que tout le monde l'a bien compris. Car tout ce... Donc si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, pardon, sont fils de Dieu. Waouh ! Mais c'est pas possible ! Depuis, on en est au verset 14, et c'est incroyable. Mais plus on avance, plus on nous fait des annonces. Alors, dans la vie courante, c'est louche. Je ne vous cache pas. Quand on n'arrête pas de vous flatter, qu'on n'arrête pas de vous faire de grandes promesses, les unes derrière les autres, généralement, vaut mieux se méfier. L'avenant de Dieu, c'est quand même incroyable. Alors, on m'a annoncé que j'étais libéré. On m'a annoncé qu'il n'y avait plus de condamnation, qu'on effaçait mon casier. On m'a annoncé qu'on était capable de me rendre la vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ? Que si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je suis fils de Dieu. Mais si je suis fils de Dieu, ça veut dire que je fais partie de sa famille. Eh bien oui, et on va voir la suite. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, ça veut dire « Papa ». Et j'aime beaucoup ce verset parce que je pensais pendant longtemps que c'était hein, « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba, Père ». Et quand j'ai travaillé ce passage, je me suis dit « Mais c'est disons ou c'est crions ?» Et quand je suis allé vérifier, c'est « Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa, j'arrive, je viens, je suis à toi !» comme le fils prodigue est revenu vers son père. Et là encore quelque chose d'encore plus fort, vous allez voir, pendant tout ce chapitre, c'est une gradation permanente. Ça n'arrête pas. Encore plus fort, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est incroyable de savoir que l'Esprit de Dieu, si on n'en est pas convaincu, eh bien lui, il nous le redit, il nous le dit, il nous le répète. l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est formidable. Alors, à propos de la souffrance, puisque au verset 18, il est parlé de souffrance, Paul dit, moi j'estime, alors c'est un des rares versets où il dit « je », j'estime que les souffrances du temps présent, et les souffrances du temps présent, chers amis, je sais que dans la salle, il y en a, enfin, on en a tous traversé, il y en a des terribles dans cette vie. Ici, il y a la maladie, il y a la mort, le deuil, les larmes, des difficultés, et aussi des situations tendues dans les familles ou d'autres choses. Eh bien, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous vous rendez compte de ce qu'il est encore en train de nous dire, la gloire à venir. Cette gloire, effectivement, cette gloire à venir, cette gloire dont nous jouirons au ciel avec le Seigneur, n'a aucune commune mesure avec ce que nous aurons pu vivre. Quel encouragement! C'est difficile à croire. Moi, j'ai beaucoup de mal, je ne vous le cache pas, quand on est agacé par quelque chose, si on me lisait ce verset, je dirais « oui, bon, ça va, c'est bon, laisse-moi faire ma crise ». On verra plus tard, mais c'est une vérité. Et ça va encore plus fort. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et là, c'est encore plus délirant. Parce que nous qui sommes en proie au doute, la création, elle, est-ce qu'elle doute? Non, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas sa révélation à elle. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que elle, la création tout entière, ne doute pas que nous sommes enfants de Dieu. C'est quand même magistral. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà un verset un peu compliqué à dire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce passage? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette petite phrase? C'est que la création espère avoir une part du gâteau, si vous me permettez cette petite expression. C'est qu'elle ne doute pas que les enfants de Dieu auront part à la liberté de la gloire. Et elle espère en faire partie. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, on est bien d'accord. Ce qu'on voit, on peut l'espérer. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors oui, on est faible. Pourquoi? Parce qu'on espère, parce qu'on doute, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. Parce que, tout ça, est-ce que c'est pour les autres? Moi, je suis moins bien que les autres. Je crois en Jésus, je crois en son sacrifice, je lui appartiens, mais je ne suis pas certain que tout ça, ce soit vraiment pour moi. De même aussi, l'Esprit vous aide, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pas magnifique? L'Esprit lui-même, l'Esprit c'est Dieu, il intercède, ça veut dire il prie pour nous. Si nous on ne sait pas quoi demander, lui il sait, il prie pour nous. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors là, quand je m'arrête, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire encore? toutes choses concourent au bien. Ça veut dire que Dieu ne veut qu'une seule chose, le bien de ceux qu'il aime, le bien de ceux qui sont appelés selon son projet, selon son dessein. Mais enfin, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il a pris à Dieu pour s'intéresser à quelqu'un comme moi, qui suis tel que je suis, c'est-à-dire avec mes défauts, avec mes colères, ça c'est pour moi, ça m'appartient, vous me le laissez, hein. Avec mes colères, mais qu'est-ce que Dieu a pu me trouver pour en arriver là, pour qu'il prie pour moi, pour qu'il en soit à me libérer, je redis encore, me libérer, me sauver du péché, me promettre une résurrection et une vie éternelle, me promettre d'être appelé son enfant, d'avoir été adopté dans une famille royale. Et maintenant, on me dit qu'il prie pour moi, pour m'aider dans ma faiblesse. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh, c'est formidable. On va être, nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous sommes appelés les frères de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifiés, ça veut dire déclarés justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui aurait pu nous dire, « Bon, écoutez, chers humains, je suis Dieu, vous n'avez pas voulu de moi. » Pourtant, je vous avais tout donné. Voilà, ben maintenant débrouillé. Bon, écoutez, je veux bien qu'on se réconcilie. Par contre, il va falloir que ça change. Hein. Donc, vous prenez le seau, la serpillière, et vous me faites toute l'allée de mon palais, là, parce que ça va bien comme ça. Et puis, vous n'êtes pas obligé de me déranger. Hein. Quand ça sera fini, je vous donnerai du boulot encore. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous a parlé? Non. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. À l'image de ce qu'il fera pour son propre fils. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Lui qui a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre fils, comment ne va-t-il pas nous donner aussi les choses moins chères? Et alors dans les choses moins chères, je vous laisse répondre. Bien sûr, il y a la sécurité. Il y a tous les besoins que nous avons au quotidien. Eh bien, tout ça, ça lui coûte bien moins cher que son propre fils qu'il a sacrifié pour nous libérer. Donc j'en étais où? Oui, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort! Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Là, dans cette phrase-là, du 35, intervient pour la première fois dans ce chapitre une notion particulière, et c'est là-dessus que je voudrais insister. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Depuis le début, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a fait tout ça? Mais enfin, c'est pas pensable, c'est pas imaginable. Eh bien, la réponse, on l'a sous les yeux. Dieu nous aime, et c'est tout. Quelqu'un disait, si vous voulez parler de Jésus, c'est ce que je voulais pour Mathilde aujourd'hui, je voulais lui parler de Jésus. Et je veux vous parler de Jésus aussi. Pas besoin de faire de grands discours. Jésus vous aime. Point, c'est tout. Et cet amour... Et sans limite, on l'a vu, lui qui a voulu que nous soyons appelés, que nous soyons libérés, que nous ayons la vie, que nous soyons adoptés dans sa famille et qu'il prie pour nous. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et voilà, Paul le redit. Dans toutes ces choses, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est dur à comprendre, je suis d'accord. C'est difficile, mais nous le serrons dans notre cœur avec foi, avec confiance. Parce que la vie est difficile, la vie aussi a des... Bien sûr, je ne veux pas la dénigrer, la vie est belle, évidemment. Mais elle recèle quelques moments douloureux. Eh bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort... Et là, vous voyez, encore une fois, Paul utilise le « je ». Et pourquoi il utilise le « je » ? C'est parce que ça n'engage que lui-même. Et en vous donnant cette phrase, Paul vous dit « moi, je vous dis que je, vous, à vous de voir si vous êtes d'accord avec moi ». Et c'est à chacun de réfléchir pour lui-même où il en est vis-à-vis de l'amour de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. N'est-ce pas là une conclusion merveilleuse à ce chapitre, chers amis? Rien et rien et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors voilà le cadeau que je voulais te faire, Mathilde. J'espère que ce passage restera gravé, comme maintenant il est gravé chez moi, qui restera gravé dans ta vie toujours, parce qu'il y a là tous les trésors de la vie chrétienne. Et je ne voudrais pas, chers amis, chères familles et chers amis de Mathilde, que vous ressortiez vous aussi de cette salle sans que ces quelques phrases vous aient aussi atteint, et j'ose le dire, transpercé. Parce que peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui luttent contre Dieu et qui ont décidé de dire « Dieu, j'en veux pas ». Alors, bien sûr, on parlera de « ni Dieu, ni maître » ou il y a des tas de choses. « Dieu, j'en veux pas, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est bien mignon, tous vos trucs. » Eh bien, moi, je voudrais vous dire qu'en retour, Dieu ne lutte pas. Vous luttez contre quelqu'un qui ne se défend pas. Vous luttez contre quelqu'un qui répond par l'amour. Lui vous aime. Et il nous aime tous. Et il aimerait que le verset 1 que nous avons lu soit aussi pour vous. Et que toute la suite qui en découle naturellement soit aussi pour vous. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'était le verset 1. Et chers amis, vous qui appartenez au Seigneur et qui, peut-être, avez placardisé l'amour de Dieu dans la poussière de notre cœur, j'aimerais vous rappeler à ces vérités que Dieu nous aime. Et ce n'est pas parce que nous lui appartenons que nous avons été faits ses enfants, que nous ne sommes plus au bénéfice de cet amour. Dieu vous aime encore. Et donc, voilà aujourd'hui, c'est encore une occasion pour nous tous de venir à lui, de se confier à lui. Et c'est ce que Mathilde a fait. Et c'est le témoignage que Mathilde va certainement nous... Je ne connais pas son témoignage. Je ne l'ai pas lu. Elle ne me l'a pas envoyé. Mais j'ai hâte de l'entendre. Mais je sais que c'est grâce à cet amour que Mathilde a décidé, et un jour après la décision, de dire « J'arrête de lutter avec Dieu. Et maintenant, j'ai décidé de lui appartenir. » Et de vivre selon l'Esprit.